Toujours dans le cadre de nos parlementaires face à la presse, on va retrouver maintenant le sénateur Olivier Cigolotti.
Il me revient de conclure. Bon nombre de choses ont été évoquées. Moi, à mon tour, je voudrais aussi vous souhaiter une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année à tous nos concitoyens, à tous les Antilligériens. Je formulerai un seul vœu, que cette année 2021 soit surtout l'année d'un retour à la sérénité. La sérénité, d'abord pour nos territoires, mes collègues en ont parfaitement parlé, même si nous sommes sur un département où la situation sanitaire, dans un premier temps, nous a quelque peu épargnés. Notre industrie résiste plutôt mieux que d'autres départements à cette situation, mais je crois qu'il faut, en ce début d'année, avoir une pensée à la fois pour ceux qui sont lourdement pénalisés, nos hôteliers, nos restaurateurs, mais aussi tous les acteurs du monde de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, on ne leur donne que peu de perspectives, ça a été dit, je n'y reviendrai pas, et je crois qu'ils sont les uns et les autres dans des situations psychiques et économiques très difficiles à supporter, puisqu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Mon vœu de retour à la sérénité est bien sûr pour notre territoire. Isabelle, Laurent et Peter l'ont évoqué. Je crois qu'on ne peut que souhaiter que cette année, grâce à la vaccination, eh bien, nous permette de retrouver une activité économique plus normale, une vie sociale plus normale. Et je suis, comme mes collègues, de ceux qui pensent que la vaccination est la seule source d'espérance. Et pour ma part également, dès que cela sera possible, eh bien, je serai de ceux qui n'hésiteront pas à se faire vacciner. Je fais confiance dans la recherche et je n'hésiterai pas à me faire vacciner pour essayer de retrouver une vie normale. Je suis aussi de ceux qui sont partisans d'un passeport vaccinal, alors pas à court terme, parce que je pense qu'il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient vaccinées, mais je crois qu'à moyen terme, ce sera, je l'espère, au niveau européen, une chose qui sera débattue et qui fera l'objet d'un large consensus. Moi, je souhaite aussi que cette sérénité pour nos territoires et pour notre pays permette également de retrouver plus de sérénité au niveau européen et international. Vous savez, nous sommes 4 parlementaires, nous sommes chacun dans des commissions différentes, et je pense que c'est une richesse. Pour ma part, je suis vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense, et je m'arrêterai quelque peu sur la situation de l'Europe. Une situation qui est aujourd'hui très fragile, puisque la crise sanitaire a affaibli et a porté de graves atteintes à nos principales démocraties, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, ce sont des gouvernements qui sont à bout de souffle. Le départ du Royaume-Uni a également été un élément de faiblesse pour l'Europe, à la fois un échec, mais aussi un avertissement pour l'avenir de l'Union européenne, même si un accord a été trouvé la veille de Noël, un accord qui a fait l'objet de très très longues négociations, mais qui heureusement a pu aboutir et ne nous a pas permis d'être dans l'impasse d'un no deal. Cette crise sanitaire mondiale constitue une situation inédite et nous met, ça a été dit également, face à un certain nombre d'urgences. Alors bien sûr, on parle beaucoup de l'urgence climatique, mais pour ma part, je pense que l'urgence économique va être une priorité, même si l'on a constaté, qu'on constate encore, ça a été dit, le retour des États-providence, avec des aides importantes qui sont distribuées, pas toujours, Laurent l'a évoqué, à bon escient, mais quand même, ce sont des sommes colossales qui sont distribuées à de nombreux secteurs d'activité, qui permettront ou non de permettre à chacun de sortir de cette situation. Mais en tout cas, se posera la question de la dette, de la dette à court terme et de son remboursement au niveau européen, d'un effacement éventuel de la dette, mais d'une situation là aussi inconnue jusqu'à présent. Le risque de conflit de haute intensité demeure et la crise sanitaire ne doit pas occulter effectivement les tensions internationales. Jamais les conflits et les tensions n'ont été aussi importants sur l'ensemble du globe. Et en tant que vice-président de la commission des affaires étrangères, notre commission a un regard particulier sur ce qui se passe effectivement dans toutes les directions. Nous sommes deux jours après l'élection du 46e président des États-Unis, Joe Biden a été investi mercredi dernier. Nous pensons, en tout cas je suis de ceux qui pensent, que cette élection devrait permettre un retour à la normalisation de l'ordre mondial, pardon, et un retour du multilatéralisme. Nous avons passé une période assez difficile dans les relations internationales, et comme je le disais, les tensions étaient nombreuses. La crise liée au coronavirus a amplifié, bien sûr, tous ces dérèglements au niveau mondial. Jean-Pierre l'évoquait, même si cette crise ne signe pas la fin de la mondialisation, en tout cas, si elle a un seul petit avantage, elle permet une prise de conscience en termes de dépendance, notamment face à nos fournisseurs asiatiques. Et je pense qu'effectivement, il y aura cette prise de conscience, il y aura une nécessité de relocalisation pour ne pas être dépendant. Je pense au secteur de l'automobile, je pense au secteur de pharmaceutique. Aujourd'hui, plus un gramme de paracétamol, élément quand même très utilisé au quotidien par nos concitoyens, n'est fabriqué en France ni en Europe. Donc je pense qu'il faudra qu'il y ait cette prise de conscience pour relocaliser un certain nombre d'entreprises. Et je pense qu'un certain nombre d'acteurs altiligériens ont toute leur place dans cette relocalisation. Les différents plans de relance, qu'il s'agisse de l'État ou de la région, devraient permettre d'accompagner ceux qui le souhaitent dans cette relocalisation indispensable. Alors bien sûr, face à ces États-providence, chaque denier public sera utilisé de la meilleure façon. Et nous souhaitons, en tant que parlementaires, effectivement, veiller et procéder au contrôle du gouvernement pour que ces deniers publics puissent être attribués et affectés avec le plus grand discernement. Ce qui me permet de revenir sur un sujet également que j'ai en responsabilité. Il s'agit des opérations extérieures de nos forces armées. Nous allons avoir, dans une dizaine de jours, un débat sur les opérations extérieures, et notamment sur l'opération Barkhane, qui aujourd'hui alimente de plus en plus l'opinion publique. L'opération Barkhane, c'est une opération qui date depuis 2013, nous rentrons dans la 9e année, une opération qui a remplacé l'opération Serval, et je rappelle qui est née de la demande des pays africains, et notamment du Mali, en proie à des problématiques liées au terrorisme et au djihadisme. C'est une opération, aujourd'hui, il faut dire les choses, qui coûte pratiquement 2 millions d'euros par jour. C'est 700 millions d'euros par an, uniquement pour l'opération Barkhane. C'est une opération qui, malheureusement, est évolutive, puisque la situation en bande sahélo-saharienne et au Mali évolue régulièrement. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de transition malien qui n'hésite pas à négocier avec les groupes armés terroristes, ce à quoi la France était toujours refusée jusqu'à présent. Certes, nous avons remporté un certain nombre de victoires militaires, mais pour gagner cette guerre, ce sera une victoire politique, inévitablement. Et seuls les militaires, notamment les militaires français, accompagnés par quelques autres pays européens, mais nous sommes quand même la nation la plus présente sur ce territoire, eh bien, nous ne pouvons pas grand-chose, et en tout cas, nous risquons un enlisement dans une situation qui serait catastrophique. Deux solutions à ça, l'européanisation des forces, c'est ce que demande effectivement le gouvernement et la ministre des Armées depuis un certain temps, sans beaucoup d'écho, puisque la création de la force Takuba, qui devait regrouper un certain nombre de forces spéciales sur le terrain, eh bien, n'a rencontré que peu d'engouement. Les premiers engagements qui avaient été donnés n'ont pas été suivis des faits. Et la sahélisation, ce que j'appelle la sahélisation, c'est la montée en puissance du G5 Sahel, aujourd'hui est assez difficile, puisque les forces en présence, eh bien, ne sont pas préparées à des conflits d'une telle intensité. L'histoire nous démontre tout de même qu'il est difficile pour des forces conventionnelles, pour des armées occidentales, de remporter des conflits asymétriques comme ceux qu'on connaît. Les exemples sont nombreux, que ce soit l'Indochine, le Vietnam, l'Afghanistan. Nous sommes dans une situation effectivement compliquée où il faudra que la France revoie sa stratégie, l'adapte en fonction de la situation. Alors je ne dis pas qu'il faut quitter le Sahel du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut préparer une sortie de crise qui passe par des initiatives politiques Et le sommet de N'Djamena qui aura lieu le mois prochain devrait permettre effectivement d'envisager cette sortie de crise à court ou moyen terme. Deux mots pour conclure sur ce qui nous attend pour 2021. Et lorsque l'on parlait de sérénité de notre travail de parlementaire, je crois que nous allons être sur ce premier trimestre très attentifs à un certain nombre de sujets. Le premier sujet qui a été évoqué, c'est bien sûr la bioéthique, mais c'est aussi la loi sur la sécurité globale, très attendue, puisque à l'Assemblée nationale, même s'il y a eu un gros travail de fait, la réécriture de l'article 24 nous incombe désormais, n'est-ce pas, Laurent ? Et c'est bien au Sénat qu'il incombera de procéder à la réécriture de ce qu'on a appelé l'article 24 et qui a défié, bien sûr, la chronique. C'est un sujet important auquel nous sommes sensibles avec Laurent et avec mes collègues. Je crois que l'on parle beaucoup de violences policières. On parle moins souvent des violences qui sont faites aux policiers. Je crois que vous en avez les uns et les autres traduit dans les lignes cette semaine ce qui s'est passé au Puy. Je crois que c'est inacceptable, et y compris un département comme la Haute-Loire est touché par ce genre de choses. Donc je crois qu'une des solutions consiste, même si on a tendance à dire qu'on va vers un système américain, eh bien c'est la mise en place de caméras piétons qui sécurisent à la fois la pratique professionnelle des policiers, mais aussi les personnes qui peuvent être interpellées ou contrôlées. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons apporter ce soutien à nos forces de sécurité intérieure. Et même notre département de la Haute-Loire n'est pas épargné par ce genre de violence. Autre sujet sur lequel nous serons les uns et les autres, tous les quatre, très attentifs, c'est le sujet qui concerne les valeurs de la République. Un texte qui, dans un premier temps, avait pris l'appellation de séparatisme, la loi sur le séparatisme, qui a été rebaptisée en loi pour la promotion des valeurs de la République. Là aussi, il y a un certain nombre de points sensibles, qu'il s'agisse de l'éducation à domicile, qu'il s'agisse du rôle des associations, ou qu'il s'agisse d'autres points sur lesquels nous serons aussi très vigilants. Dernier point que je veux évoquer, c'est bien sûr, Laurent l'a évoqué quelque peu, et je partage son propos sur la démocratie et les élections. Nous devrions, la semaine prochaine, au Sénat, voter un texte sur le report des élections départementales et régionales. Ce texte correspond au rapport, ce que l'on a appelé le rapport Debré, qui propose un report des élections les 13 et 21 juin prochains, avec une clause de revoyure au 1er avril, qui permettra effectivement, en fonction de la situation sanitaire du moment, eh bien, de procéder à cette élection dans les conditions prévues dans le rapport Debré, ou au pire, au mois de septembre 2021. Je pense effectivement, et Laurent le disait, on ne peut pas jouer avec la démocratie. Il y a certes une situation sanitaire qui nous oblige à veiller à ce que, à la fois, la campagne dans des élections qui restent des élections de proximité, que ce soit la campagne des élections départementales ou régionales, puisse se faire dans des conditions satisfaisantes, mais aussi que le scrutin puisse mobiliser un certain nombre de nos concitoyens pour que les élus sortant de ces scrutins puissent obtenir toute la légitimité. J'espère que la situation sanitaire nous permettra de tenir ces élections au mois de juin, faute de quoi, si elles ne pouvaient pas se tenir à cette période, l'échéance du mois de septembre me semble vraiment une échéance ultime. Voilà, notre année 2020 a été aux uns et aux autres bien remplie. Le confinement, effectivement, nous a obligés à changer notre façon de faire. L'année 2021 s'annonce sous des auspices qui ne sont pas meilleurs. Mais en tout cas, nous avons adapté nos pratiques parlementaires. Nous essayons d'être vigilants pour tout ce qui concerne notre territoire, pour tout ce qui concerne notre pays et tout ce qui concerne, effectivement, l'action des élus dans notre territoire. Jamais les élus ont été désignés par les urnes et n'ont eu à gérer une situation aussi difficile dès le lendemain de leur élection. Et je crois, et ça sera pour moi le mot de la fin, je crois qu'on peut leur rendre un hommage appuyé, puisque on l'a vu, ça a été démontré, quelles que soient les situations, quelles que soient les problématiques liées à l'éducation, liées à l'accompagnement des plus vulnérables, eh bien, ils ont été au rendez-vous, et ça me permet de conforter ce qui a été évoqué par mes collègues. Je crois que plus on donne de la proximité à l'action publique, plus on lui donne de l'efficacité.